Le journal présenté par Stanislas Vazak.
Le Parlement britannique pourrait infliger ce soir un deuxième revers à Boris Johnson, un nouveau report du Brexit. Le Premier ministre est prêt à riposter avec des élections anticipées. Dans un instant, nous retrouverons Marie-Pierre Véro à Londres. Sortie de crise en Italie, Giuseppe Conte a présenté aujourd'hui son nouveau gouvernement, une coalition entre les 5 étoiles et le Parti démocrate, la correspondance à Rome d'Olivier Tosseri. La Chine recule face à la détermination des manifestants à Hong Kong. Le projet de loi d'extradition sur le sol chinois est retiré. Le reportage à Hong Kong de Florence de Changy. En France, un rapport parlementaire pointe les anomalies de notre système de prestations sociales. Il y aurait, selon les chiffres de l'INSEE, 84 millions de bénéficiaires, parmi lesquels 3 millions de centenaires encore en vie. Les explications d'Anne-Laure Jumet. Les journées cruciales se succèdent au Royaume-Uni sur le front du Brexit. Nouvel épisode aujourd'hui. Le Parlement britannique vote ce soir sur un éventuel nouveau report de la date de sortie de l'Union européenne, avec la menace d'élections législatives anticipées, menace agitée par Boris Johnson. Le Premier ministre qui a perdu hier sa majorité, avant d'être désavoué par les parlementaires qui ont repris le contrôle de l'agenda, vote acquis grâce à la défection de 21 députés conservateurs qui ont voté avec l'opposition. Bonsoir Marie-Pierre Véro.
Bonsoir Stanislas.
En direct de Londres, Marie-Pierre, ce soir, les parlementaires vont donc voter deux fois.
Oui, d'abord pour adopter une proposition de loi qui vise à exclure une sortie sans accord, un no deal. C'est vraiment l'épouvantail qui rassemble des élus de tous bords. Ce texte contraint Boris Johnson à demander à Bruxelles un report du Brexit de 3 mois au 31 janvier si aucun accord de sortie n'était trouvé avant le 19 octobre, donc au lendemain du sommet européen. Un vote qui va s'effectuer en deux temps, premier volet en ce moment même, second dans une heure après avoir débattu des amendements au texte. Mais il n'y a aucun doute sur l'issue, puisque dès hier, les députés favorables à cette proposition de loi ont déjà infligé une véritable humiliation à Boris Johnson en débouchant en effet largement dans les rangs de son propre parti, le Parti conservateur. Le Premier ministre a donc perdu le contrôle de la Chambre et des débats sur le Brexit, mais il a encore des atouts dans la manche.
Ah oui, Boris Johnson qui espère effectivement provoquer de nouvelles élections, et ce sera d'ailleurs l'objet d'un deuxième vote, Marie-Pierre.
Et oui, un deuxième vote, il veut des élections anticipées parce qu'il refuse, lui, tout report, tout nouveau délai pour le Brexit. Mais pour obtenir ces élections anticipées, il doit d'abord avoir les 2/3 des voix au Parlement, et c'est quasiment exclu puisque les travaillistes ont annoncé qu'ils voteraient contre. Alors cela peut sembler contre-intuitif que l'opposition refuse des élections anticipées, mais il faut dire que la méfiance à l'égard du Premier ministre est au plus haut, aux communes.
Marie-Pierre Véro en direct de Londres.
Pense qu'il n'hésite pas à mentir pour parvenir à ses fins. Les élus veulent d'abord donc s'assurer que leur loi sera votée et promulguée avant d'accepter des législatives.
Marie-Pierre Véro, envoyé spécial à Londres, merci et pardon pour cette coupure technique au cours de cette intervention. Des élections anticipées, il n'en est plus question en Italie. Le chef de la Ligue, Matteo Salvini, a définitivement perdu son pari hier soir avec le vote des militants du mouvement 5 étoiles. À 80%, ils ont approuvé la formation d'une nouvelle coalition avec le Parti démocrate de centre-gauche. Giuseppe Conte reste président du Conseil. Il a présenté aujourd'hui son nouveau gouvernement au président de la République italienne, Sergio Mattarella. Olivier Tosseri, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Rome, Olivier, le deuxième gouvernement Conte tente de respecter un subtil équilibre entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate.
En effet, Giuseppe Conte a supprimé les postes de vice-président du Conseil. Il a promis que la politique menée par l'inédite coalition entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate marquera une discontinuité avec la précédente. Il a surtout été attentif à ce qu'elle ne soit pas déséquilibrée en faveur des ennemis jurés d'hier qui sont aujourd'hui des alliés. Ils obtiennent chacun 10 portefeuilles tandis que celui de l'intérieur est dépolitisé avec la nomination de Luciana Lamorgese, ancienne avocate et préfet de Milan. Luigi Di Maio, le chef du mouvement 5 étoiles, dirigera la diplomatie italienne. Son parti conserve les portefeuilles du travail et des politiques sociales, de la justice, de l'environnement et obtient celui du tout nouveau ministère pour l'innovation technologique et le numérique. Les ministres de la Défense, des Affaires européennes, des infrastructures ou encore de la culture sont confiés à d'éminents membres du Parti démocrate. Un de ses eurodéputés obtient également le plus important et le plus délicat des Marocains, celui de l'économie. Il devra élaborer le prochain budget en conciliant les promesses de gel de l'augmentation de la TVA, de hausse des investissements publics et de baisse significative des impôts. C'est une aubaine pour le Parti démocrate qui revient en force au pouvoir. Il n'a pas le droit à l'erreur, sous peine de le perdre durablement au profit de Matteo Salvini.
Olivier Tosseri, correspondant en Italie, merci. L'Italie et l'ensemble des pays européens qui font face en cette rentrée à un ralentissement de l'activité économique. L'Allemagne est même au bord de la récession. Soutenir l'économie européenne pour retrouver le chemin d'une croissance durable, ce sera l'objectif de la future présidente de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde doit prendre ses fonctions le 1er novembre prochain. Elle succédera à l'Italien Mario Draghi. L'actuelle directrice du FMI était à Bruxelles aujourd'hui pour son audition devant la Commission des affaires économiques du Parlement européen. Le reportage d'Angélique Boin.
Je suis intimidée, a commencé par déclarer l'ex-patronne du FMI, mais heureuse d'être là. 2h30 de questions-réponses nourries sur la politique qu'elle entend mener à la tête de la BCE. Il faudra d'abord, selon elle, clarifier sa politique vis-à-vis des citoyens.
Pour permettre l'appropriation par les citoyens de la zone euro, il faut impérativement dépoussiérer le langage et s'épargner un excès de jargon technocratique pour permettre aux citoyens, aux consommateurs, de comprendre à quoi ça sert la BCE.
Vous arrivez sous le soleil, mais les nuages s'amoncellent, lui fait remarquer un eurodéputé. Pas de Big Bang monétaire en vue, elle poursuivra la politique non conventionnelle mise en place par son prédécesseur pour affronter les crises. La future BCE s'éloignera par ailleurs des entreprises les plus polluantes.
Il est évident que les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Mais qu'on aille vers une transition graduelle pour éliminer ce type d'actifs, ça me paraît aussi un impératif si on est convaincu de la nécessité absolue de joindre nos forces, quelque institution que l'on dirige, pour lutter contre le changement climatique.
Un engagement salué par de nombreux députés, dont le français Pascal Canfin de La République En Marche.
Il est clair qu'elle a envie d'utiliser son mandat de la BCE pour contribuer à porter sa pierre à l'édifice de la lutte contre le dérèglement climatique. Et elle est allée bien au-delà à l'oral de ce qui avait été répondu par écrit et bien au-delà de la doctrine actuelle de la Banque Centrale Européenne.
Ce ne sont que de belles paroles pour Manon Aubry qui, elle, a relevé dans ses engagements écrits près de 30 références à la stabilité financière contre 2 seulement en faveur de la lutte contre les inégalités.
Angélique Boin, correspondante à Bruxelles. La Chine a fait une concession majeure aux partisans de la démocratie à Hong Kong. Le projet de loi sur l'extradition des suspects sur le sol chinois est officiellement retiré. Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, l'a annoncé aujourd'hui. À Hong Kong, la bourse et les milieux d'affaires ont salué ce recul majeur, mais rien n'indique que cela suffira à calmer la contestation. Le reportage sur place de Florence Dechangy.
Pour les manifestants et le camp pro-démocratie de Hong Kong, les mesures offertes par Carrie Lam sont globalement trop peu et trop tard. Elle a joué avec les mots sur plusieurs demandes en laissant par exemple à la police le rôle de la commission d'enquête sur les violences policières, mais en lui adjoignant 2 experts internationaux. La députée Claudia Mo, porte-parole du camp pro-démocratie, dénonce un geste tactique dans cette annonce.
Nous craignons que ce ne soit qu'une tactique politique, que pour mieux avancer, elle recule d'abord et fasse des concessions. Pourquoi ? Parce que maintenant, elle va pouvoir dire « tous ces désordres, c'était à cause du projet de loi. Maintenant que je l'ai retiré entièrement, il n'y a plus aucune raison de manifester. » Et si les désordres continuent, Carrie Lam aura l'excuse parfaite de demander à la police de réprimer les manifestants avec encore plus de force.
Les manifestants ont maintenu l'un de leurs slogans majeurs « Répondez à nos 5 revendications, pas une de moins ». Sur les réseaux sociaux, de nouveaux appels à la mobilisation étaient lancés, y compris dès mercredi soir autour du Parlement.
La correspondance de Florence Dechangy depuis Hong Kong. Assassinat, enlèvement, embrigadement de la population. L'ONU a dressé aujourd'hui à Genève un portrait glaçant du Burundi. Une commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme parle d'un climat de peur généralisé. Le Burundi, qui est en crise depuis 2015 et la réélection en force du président Pierre Nkurunziza, les Nations Unies préviennent de nouvelles atrocités pourraient voir le jour au moment des élections prévues l'an prochain. Les explications à Genève de Jérémy Lanche.
En plus des services de sécurité, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir est aujourd'hui le fer de lance de la répression. L'ONU accuse les Imbonerakure de disparition forcée, de meurtres et de viols d'opposants, réels ou supposés. Le président de la commission d'enquête, Doudou Dien.
Le système judiciaire a continué de servir d'outil de répression contre les opposants politiques, tout en favorisant le climat d'impunité pour les auteurs de violations. Les restrictions de liberté publique s'intensifient. La presse et les médias sont censurés. L'ensemble de la population continue à devoir payer des contributions diverses, prélevées par l'intimidation et la force pour organiser les élections de 2020 ou financer le parti CNDD-FDD, le parti politique au pouvoir. L'ensemble de la population est forcée de travailler pour construire des permanences locales. C'est une forme de travail forcé.
Alors qu'en 2015, les exactions concernaient surtout la capitale, Bujumbura, aujourd'hui c'est tout le Burundi qui est touché. Le pays est l'un des plus pauvres de la planète, il devient maintenant l'un des plus fermés. Aucun membre de la commission n'a pu s'y rendre, mais l'ONU a réussi à récolter plus de 1200 témoignages de victimes, de témoins ou d'auteurs de crimes. Des témoignages précieux. Selon l'une des membres de la commission d'enquête, Françoise Hampson, la liberté d'opinion n'existe plus au Burundi. Quitter le pays est devenu très difficile. Pour la population, le Burundi ressemble de ce point de vue de plus en plus à une prison.
Combien coûte la fraude sociale en France ? Les fraudeurs se comptent-ils par centaines de milliers ? Un rapport parlementaire relance le débat, rapport rédigé par la sénatrice centriste Nathalie Goulet et la députée LREM Carole Grandjean. Les deux élus missionnés par Édouard Philippe rendront leur travail au Premier ministre à la fin du mois, mais d'ores et déjà, elles ont révélé un certain nombre d'anomalies dans notre système de prestations sociales. Deux exemples édifiants tirés des statistiques de l'INSEE. Il y aurait dans notre pays 84 millions de personnes susceptibles de toucher ces prestations pour une population de 67 millions d'habitants. Et surtout, l'Institut recense 3 millions de centenaires réputés en vie, selon la formule officielle, alors qu'il n'y en a que 15 000. Question à Laure Jumet, comment peut-on expliquer ces anomalies ?
Parmi les raisons invoquées, des décès non signalés et des personnes qui restent dans les fichiers, car ça permet le calcul des pensions de réversion. Mais ça n'explique évidemment pas tout et ces écarts très importants posent la question de la fiabilité de ce répertoire national d'identification des personnes physiques, un fichier qui sert notamment de référence pour le versement des prestations sociales. D'où des propositions dans ce pré-rapport pour permettre un nettoyage du répertoire, l'obligation de signaler tout changement de domicile ou encore l'obligation de fournir une preuve de vie annuelle, en particulier dans le cadre des prestations versées par la branche vieillesse. De quoi aider à la lutte contre la fraude sociale, une fraude qui prend plusieurs visages, mais qui est plutôt une fraude institutionnalisée, explique la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet, co-rapporteur de cette mission.
Ce n'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude de réseau. On a un système qui est extrêmement perméable. Plus vous dématérialisez et plus vous donnez l'occasion de frauder, moins vous avez de contrôle physique et plus vous avez l'occasion de frauder. C'est de l'argent qui ne va pas ni à nos infirmières, ni à nos services d'urgence, ni à ceux de nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Fléau auquel il faut vraiment s'attaquer, et c'est ce qu'on est en train de faire.
Parmi les cas identifiés, celui de la fraude aux soins, avec des personnes ne résidant plus en France, mais qui ont gardé leur carte vitale. Une carte qui aujourd'hui ne peut être désactivée et circule donc dans d'autres mains. Pour éviter cela, les auteurs de la mission proposent de limiter la durée de vie des cartes vitales. Le rapport définitif sera publié le mois prochain avec des chiffres permettant d'évaluer cette fraude, alors que 450 milliards d'euros de prestations sociales sont versés chaque année en France.
Anne-Laure Jumet, merci. La lutte contre la fraude sociale qui va peut-être devenir une priorité gouvernementale avec ce rapport. Mais en attendant, Édouard Philippe réunissait son gouvernement aujourd'hui en séminaire à Matignon. Le Premier ministre n'a rien révélé de ses intentions quant à la réforme des retraites. Le calendrier et la méthode seront dévoilés la semaine prochaine après les premières rencontres avec les partenaires sociaux prévues demain et vendredi. En revanche, Édouard Philippe a évoqué les élections municipales de mars prochain. Il a fixé des règles précises pour les membres du gouvernement qui seront candidats. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Une petite dizaine de ministres et de secrétaires d'État sont concernés.
Oui, et la règle pour ces personnalités est désormais claire. Tous les ministres qui le souhaitent pourront se présenter aux municipales, mais s'ils sont élus à la tête d'un exécutif local, ils devront choisir entre rester au gouvernement et occuper le mandat de maire, même pour les petites communes, a insisté Édouard Philippe. Il répondait à un journaliste à l'issue du séminaire gouvernemental.
Je ne suis pas totalement convaincu que ça prenne moins de temps d'être maire d'une petite commune et maire d'une commune un peu plus grande. L'idée selon laquelle ce serait facile pour une toute petite commune me semble devra être discutée.
Pour la campagne électorale, la feuille de route a aussi été tracée. Elle devra être courte pour ne pas déranger le travail gouvernemental. Aucune entrée en matière autorisée avant le mois de janvier prochain, insiste Édouard Philippe. Ceci étant dit, il encourage ses ministres et secrétaires d'État à monter sur le front électoral.
Nous sommes attachés avec le président de la République à cette possibilité, pas une obligation, mais à cette possibilité pour les membres du gouvernement de se confronter, parfois pour la première fois, parfois une fois de plus, au suffrage universel et d'avoir la possibilité d'être des acteurs de la vie publique. Encore une fois, dans une démocratie, c'est une bonne chose.
Alors parmi ceux qui ont des velléités pour les municipales de mars prochain, 15 mars prochain, la date officielle d'ailleurs a été donnée tout à l'heure, Gérald Darmanin à Tourcoing dans le Nord, Sébastien Lecornu dans son fief de Vernon dans l'Eure, toujours en Normandie la ministre Elisabeth Borne réfléchirait à la ville de Caen, le secrétaire d'État à l'intérieur Laurent Nunez regarde le Cher et la ville de Bourges, mais les règles posées cet après-midi rebattent un tout petit peu les cartes, elles devraient inciter les membres du gouvernement à se présenter en tant que colistiers et non pas tête de liste, précise-t-on, au siège d'En Marche, le parti qui, à ce stade, n'a d'ailleurs investi aucun des ministres.
Anne Fauquemberg, merci. Et dans moins d'une heure, le macroniste Cédric Villani devrait annoncer sa candidature à la mairie de Paris. Le député mathématicien va donc choisir la voie de la dissidence, puisque le candidat officiel de La République En Marche dans la capitale, c'est Benjamin Griveaux. Mais pour l'heure, le parti majoritaire n'envisage pas d'exclure ou de sanctionner Cédric Villani. Y a-t-il encore un avenir pour Aigle Azur ? La compagnie aérienne est en redressement judiciaire depuis lundi et les repreneurs potentiels ont jusqu'au 9 septembre pour déposer leur offre. Aigle Azur est spécialisée dans les liaisons vers l'Algérie. Elle emploie 1150 personnes, dont 350 sur le sol algérien. À l'origine des déboires d'Aigle Azur, il y a une succession d'erreurs stratégiques commises par ses dirigeants. Hakim Kasmi.
La compagnie spécialisée sur le Maghreb paye en fait sa stratégie de diversification. Et là, il y a vraiment urgence pour Aigle Azur, car on est bien loin des 25 millions de trésorerie restants invoqués par son ancien PDG, Frans Yvelin, en août dernier. À cela, il faut ajouter le fait que 15 millions d'euros sont bloqués en Algérie, la compagnie réalisant plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans ce pays. Or, la législation est très stricte en Algérie pour les entreprises étrangères. Pour faire des virements bancaires, il faut au moins 2 mois pour rapatrier l'argent en France. Or, Aigle Azur n'a plus le temps, du coup la compagnie ne vend plus de billets et n'est même plus en capacité d'assurer une très grande partie de ses vols, comme nous l'explique Jean-Pierre Masse, le président du syndicat des entreprises du voyage.
Aujourd'hui, la compagnie Aigle Azur a arrêté un certain nombre de vols, notamment les vols à destination ou en provenance de Bamako, de Porto et de Sao Paulo. Sur son site, les vols ne sont plus accessibles et ne sont plus réservables à partir de lundi prochain. Donc on peut en supposer que la compagnie Aigle Azur va, en fin de semaine ou au cours du week-end, arrêter l'ensemble de ses vols. Il y a déjà des passagers qui sont bloqués à Bamako, à Sao Paulo ou à Porto. Et il y aura certainement des passagers qui seront bloqués sur d'autres destination et notamment l'Afrique du Nord dès la semaine prochaine.
Résultat, tous les passagers bloqués à l'étranger devront rentrer hélas par leurs propres moyens et Glazier n'ayant plus vraiment l'argent en ce moment pour leur payer des billets retour.
Hakim Kasmi, on va terminer ce journal avec cette incroyable histoire. 75 ans après la libération de Paris, il y a encore dans les caves du Sénat un buste d'Hitler et un drapeau nazi. Information révélée par le journal Le Monde dans sa version numérique. Il faut savoir que de 1940 à 1944, le palais du Luxembourg, siège du Sénat, était occupé par l'état-major de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande pour le front ouest. Les précisions de Stéphane Robert.
L'information est le fruit d'une enquête réalisée au cœur de l'été par un journaliste du Monde, Olivier Fay. Il nous révèle que depuis 75 ans, dans les caves du Sénat, se cachait dans le plus grand secret un buste d'Adolf Hitler, un buste en métal de 35 cm de haut, ainsi qu'un drapeau nazi de 2 mètres sur 3, orné d'une croix gammée et d'une croix de fer. En dehors de quelques initiés, personne n'était au courant. Même des sénateurs qui ont arpenté durant plusieurs dizaines d'années les couloirs du palais du Luxembourg sont tombés des nues quand ils ont appris la nouvelle. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, à qui on a posé la question ce matin, a fait une réponse un peu embarrassée.
J'ignorais la présence de ce buste, hein, je vais tout vous dire. Non, ils n'étaient pas répertoriés d'après le rapport que j'ai, sauf pour un drapeau qui est en cours d'inscription dans les archives. J'ai demandé à la questure. Ils auraient mieux fait d'être répertoriés.
La question n'est pas de savoir ce que ces objets font au Sénat. Le palais du Luxembourg a été occupé pendant 4 ans par les nazis. Il n'est donc pas incongru qu'il y subsiste quelques vestiges. Non, ce qui est surprenant, c'est le secret dans lequel ce buste et ce drapeau étaient conservés là. Après d'intenses recherches infructueuses et de nombreuses questions sans réponse, le journaliste du Monde a interrogé l'architecte en chef du Palais du Luxembourg, qui lui a répondu « Oui, effectivement, il y a un buste d'Hitler dans les caves du Sénat, mais dites-moi, comment avez-vous appris son existence ?»
Stéphane Robert, merci. Le temps demain se rafraîchit nettement. Quelques pluies possibles le matin du midi toulousain à la Franche-Comté. Ailleurs, le soleil s'imposera rapidement. Température minimale en baisse de 4 à 18 degrés du centre du pays à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 18 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.